Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 10 mai, toujours en mode de confinement, où naturellement, eh bien, on va à travers donc cette période un peu particulière, et notamment pour le monde du sport, avoir les témoignages ce matin de deux nouveaux intervenants. On aura dans la deuxième partie de cette émission le président de la section cyclisme de Poligny-Rambouillet, Olivier Bourdin, qui nous parlera notamment eh bien, de l'annulation du Tour Rambouillet Territoire. Et puis dans cette première partie, on va avoir un habitué, celui qui vient nous parler régulièrement de sport mécanique, notamment à travers le rallye de Monte Carlo historique, c'est notre ami Stéphane Kahn. Stéphane, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs de RVE, content de vous retrouver en ces moments un peu particuliers.
Alors Stéphane, première question, celle qu'on pose régulièrement à nos invités, même si pour vous ça va être un peu différent puisque vous faites partie donc du corps médical, comment se passe cette période un peu particulière du confinement?
C'est vrai que c'est un petit peu particulier. Moi, je suis kinésithérapeute, donc je continue mon activité le matin. J'ai continué à voir mes patients à risque et les patients pour lesquels on ne pouvait pas arrêter les soins. Donc, en fait, c'est un demi-confinement.
C'est vous, Stéphane, hein, qui avez pris de votre propre initiative le fait de laisser vos locaux? C'est par solidarité, naturellement.
Alors, en fait, on y avait pensé. Nous, on a toujours eu un petit temps d'avance. Je travaille dans une maison de santé où on est 18 praticiens. Donc, en fait, c'est un petit peu notre initiative. Et après, notre conseil de l'ordre nous a demandé. Tout s'est mis un petit peu en place, mais on a toujours eu un temps d'avance.
Comment va maintenant se passer cette période de déconfinement qui se profile? Vous allez reprendre un peu plus de service au sein de vos cabinets?
Oui, on est un petit peu obligé parce qu'il y a de la demande. On a mis entre parenthèses des soins qu'il fallait absolument continuer. Donc, moi, j'ai vu à domicile. Mais donc là, tout doucement, on réouvre le cabinet, on refait pareil de nouveau une organisation différente de notre maison de santé avec un espace réservé aux patients Covid. Il y en a quand même de moins en moins, il faut le noter, tout va dans le bon sens. Mais par contre, bon, c'est maintenant qu'il faut vraiment faire attention, il faut faire passer le message. C'est un petit peu comme la Coupe du Monde de foot, hein. On a fait les phases de poule, maintenant on rentre en huitième. Alors maintenant en huitième, il faut jouer tous ensemble, il faut serrer les coudes et puis il faut avancer pour aller en quart de finale. Et ça, on ne pourra le faire que si tout le monde joue le jeu, si tout le monde se protège bien, respecte les gestes barrières. Et nous, on est les premiers concernés. Donc, nos patients viennent avec des masques, on a du gel hydroalcoolique, on sépare tout le monde. Mais il faut absolument protéger, il faut protéger tout le monde et avancer dans le même sens.
C'est intéressant parce que vous qui êtes du corps médical, vous allez peut-être nous éclairer un peu plus. D'abord, est-ce que cette pandémie, vous, comme tous ceux qui sont dans le corps médical, l'avez-vous vu venir? Est-ce que vous pensiez que ça a une telle importance?
On avait été prévenus lors de la crise H1N1, mais on était loin de se douter qu'on allait effectivement subir un jour. On en avait eu conscience à ce moment-là, c'était un test, mais par contre, on était loin de se douter que ça arriverait avec cette vague, mais ça reste quand même, je pense que ça a été pas si mal, tout a été mis en œuvre pour que la vague ne soit pas si importante, et pour l'instant, on tient bon, et voilà, on continue sereinement à avancer, malgré ce virus qui encore présente beaucoup d'inconnus.
Malgré tout ce qui a pu être dit, vous pensez que c'est bien qu'on soit en France, que finalement, on a fait face, peut-être plus que certains autres pays.
Complètement, il faut que tout le monde ait confiance. On a de la chance d'être en France, on a un système de santé qui est très bien fait. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de moyens à l'hôpital, on a effectivement fermé des services, on a coupé des budgets, la médecine de ville, elle souffre un petit peu. Nous, on a une maison de santé par notre volonté, et on a aussi des appuis pour remercier quand même. Moi, je travaille à 50 ans Yvelines, donc il faut remercier tous les appuis que l'on a pu avoir. Mais par contre, c'est vrai qu'on était dans un milieu qui commençait à éclater un petit peu. Peut-être que cette crise va nous permettre d'avoir pouvoir repartir dans la bonne direction.
Ouais, et puis on le dit à chaque émission, à chaque fois, hein, naturellement. Un regard maintenant sur le monde hospitalier beaucoup différent par rapport à ce, au passé. On espère qu'ensuite, la crise terminée, la pandémie passée, eh bien, on ne les oubliera pas.
C'est ce que je disais, l'hôpital commençait à craquer, commençait à souffrir. La médecine de ville, les kinésithérapeutes, les infirmiers, donc on est nombreux à travailler, le système commençait à craquer, on pas assez nombreux, pas assez de moyens, des rémunérations qui sont quand même, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est pas hyper performant. Donc, pour motiver les nouvelles générations, on peut pas dire que c'est le salaire qui motive les nouvelles générations à venir dans ces professions-là. Donc c'est un sacerdoce, mais quand même, il faut avoir un minimum de moyens. Mais il faut quand même reconnaître, voilà, moi je suis plutôt fier de faire partie du corps de santé français.
Oui, d'autant plus que certains ont repris du service. On a même vu des anciens retraités revenir prêter main forte, hein, Stéphane.
Il y a une solidarité incroyable. Et c'est souvent comme ça, hein, lorsqu'il y a des crises sanitaires. En fait, on est avant tout là pour soigner, donc tout le monde a envie de participer, tout le monde se serre les coudes. Nous, on a mis nos locaux à disposition, on a tout organisé un maison de santé, on a repris tout ce qu'on pouvait avoir comme matériel, on est allé à droite à gauche chercher des masques bien avant l'heure, chercher des protections, chercher tout ce qu'il fallait, on est allé à droite à gauche acheter du gel. Dès qu'il y a une crise, en fait, c'est là où on voit qu'il y a une solidarité entre tous les gens de la santé, et puis on est là pour se soutenir et puis avancer, parce que c'est pas toujours évident, et malheureusement, souvent, ça se termine mal.
Peut-être aussi pour rassurer les gens, parce que c'est vrai que pendant cette pandémie, on a entendu tout, puis n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup de peur.
Ah oui, mais il y a une peur certaine. Là, c'est peut-être le problème des médias, et c'est bien de relayer des informations. Par contre, il ne faut pas non plus relayer toujours un petit peu des infos qui ne sont pas vérifiées ou justifiées. Et puis après, il faut expliquer. On ne s'adresse pas forcément toujours à des gens qui ont la capacité à comprendre des termes médicaux ou des choses qui, pour nous, semblent tout à fait claires et limpides. Il faut expliquer que le virus, en se protégeant bien dès le début, les gestes barrières, ce n'est pas un animal qui va attaquer, ce n'est pas un ours qui va vous sauter dessus. En prenant des précautions, il n'y a pas de raison qu'on attrape ce virus. Il faut faire attention, voilà, il faut se protéger. Peut-être il aurait fallu faire passer des messages plus simples dès le début.
On est bien d'accord, pour bien réussir ce déconfinement, si on continue à respecter les gestes barrières, finalement, ça devrait s'éteindre.
Ah mais complètement. Les 3 semaines correspondent un petit peu à la période d'incubation, mais en respectant toujours ces mesures barrières, il n'y a pas de raison d'attraper le virus, c'est clair.
C'est-à-dire la distanciation, se laver les mains, et même les masques, on n'est pas obligé de les porter?
Alors, le masque, c'est mieux de le porter, ça évite en fait tout risque, mais c'est vrai que c'est surtout la distanciation, se nettoyer les mains, et en cas de risque, il faut faire attention. Le masque, en fait, ça évite de projeter ses gouttelettes. Ou nous, praticiens, on a des masques FFP2 qui nous protègent bien parce qu'on est au contact rapproché de nos patients et ça évite d'être contaminé à notre tour. Mais lorsque vous sortez dans la rue, quand vous allez faire une balade, ça n'a aucune utilité. Rentrez chez vous, vous nettoyez bien les mains. Au moindre doute, vous changez de tenue, vous prenez une douche et ce sera largement suffisant.
Et puis, se dire que si on croise quelqu'un 10 secondes, on ne va pas attraper le coronavirus. Hein.
Non, la probabilité est faible. Après, il faudrait qu'il y ait un taux viral dans une pièce. Il y a eu beaucoup de gens contaminés, que ça n'ait pas été aéré et que tout le monde reste dans cette pièce longtemps pour effectivement avoir un risque.
Stéphane, est-ce que finalement on va trouver un vaccin ou quelque chose assez rapidement? Parce que là aussi, il y a un énorme effort des laboratoires. La science avance très vite, hein, malgré tout.
C'est surprenant parce qu'en fait, cette crise, nous, on se la prend de plein fouet depuis que 2 mois. Il faut voir qu'en 2 mois, c'est incroyable. Tous les progrès qui ont été faits, les recherches qui ont été menées, même en médecine de ville, on a des tests qui sont menés. Il y a des tests un petit peu partout. Et on avance, on découvre de plus en plus de choses sur ce virus. On découvre tous les jours des nouvelles pistes. Et c'est très, très encourageant. Et j'ai bon espoir qu'on trouve un vaccin. Ce ne sera pas pour la rentrée, ça c'est sûr. Mais en 2021, on devrait avoir le vaccin qui protégera toute la planète, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que vous pensez de ces divergences médicales? Certains disent qu'il faut mettre des vieux médicaments génériques qui font déjà leur effet, ça a été prouvé. D'autres disent que ça c'est pas forcément prouvé à 100%. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut tester, mais il y a des gens qui sont compétents pour tester. Il y a aussi certaines mesures à respecter pour que ces tests soient validés. Alors peut-être que les délais sont trop longs à l'heure actuelle, il faut les raccourcir. Mais on ne peut pas mettre sur le marché des traitements, des médicaments qui n'ont pas été testés et approuvés. Les conséquences secondaires seraient catastrophiques. Donc oui, c'est bien. Maintenant, on est tous dans la même équipe. C'est ce que je disais. Hein. Faut imaginer, on est le 11 de France. Là, on joue la Coupe du Monde. On va bientôt arriver en finale. C'est pas le moment que chacun joue dans son côté. Il faut jouer tous ensemble. Il faut rester solidaire. On est une équipe. Puis c'était bon et ça marche aussi pour tous les Français. Chacun a son rôle à jouer. Chacun doit avancer. On a tout là-haut. Bah, notre entraîneur, hein, qui nous donne des directives. À nous de faire pour le mieux, mais restons collectifs, restons soudés. Et puis, bon, les polémiques, on réglera ça une fois que le coup de sifflet final aura été donné. On aura le temps et tous ceux qui seront là pourront en discuter. C'est pas le moment d'en parler. Je pense qu'il faut avancer. Il y a des tests qui sont menés.
Et pourtant, c'est pas le sentiment que ça donne de l'extérieur, hein. On a le sentiment que des fois, on tâtonne un peu. À vue, Stéphane.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a différentes voies et chacun pense avoir trouvé. Et même au niveau international, chacun va aller de sa petite découverte en disant qu'il a trouvé le remède miracle, etc. Non, je pense que là, de ce côté-là, il faudrait pas trop en parler. Je pense que ce sera bien d'en parler lorsqu'on aura vraiment trouvé le vaccin, le traitement médicamenteux efficace. Sinon, pour l'instant, ça sert trop à rien d'en parler. Il faut continuer. Le monde de la recherche est en France, ça marche plutôt bien. Là aussi, il faudra peut-être revoir les moyens. Mais en attendant, on avance. On va trouver des solutions. Allons dans la même direction.
Alors certains disent que ce sont les pays les plus industrialisés qui sont les plus touchés, l'Europe de l'Ouest et les États-Unis par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est surtout les pays les plus densément peuplés. On voit qu'aux États-Unis, c'est surtout New York, certains endroits où la population explose. En Europe, par exemple en Scandinavie, où la densité de population est moins importante, ils sont beaucoup moins touchés. Je pense qu'il faut aussi rapporter ça à la densité et puis à l'importance de la population.
Y compris dans notre pays, hein, la France, hein, on voit que les régions qui sont encore en rouge sur la carte sont celles où il y a le plus de densité, fatalement.
Les régions rouges, c'est celles où il y a le plus de densité, où on a le plus d'hôpitaux, mais qui sont aussi les plus saturés, dû à la densité de la population. Donc oui, c'est un petit peu normal que de toute façon, c'est dans les pays industrialisés qu'on trouve le plus de monde, qu'il y a le plus de moyens, qu'il y a le plus d'hôpitaux, qu'il y a le plus de malades, et ça craque un petit peu.
Stéphane, pour finir sur ce chapitre médical, ensuite on passera naturellement au sport. Finalement, le vaccin, il peut être comme la grippe que préventif.
Ça, on ne sait pas. Oui. Si j'avais la réponse, j'aurais mis le vaccin au point. Et là, ce serait très bien. On laissons aux chercheurs trouver et ils nous donneront ce qu'ils vont trouver. Moi, j'ai confiance en eux. À mon avis, ce sera, oui, sûrement, tout du moins au début, un vaccin peut-être saisonnier. Est-ce que ça aboutira sur autre chose plus tard? Ça, je ne sais pas.
Parce que c'est qu'il y a de la grippe, on peut se vacciner contre la grippe et puis l'avoir quand même. Hein.
Ah, mais complètement. C'est pas parce qu'on est vacciné, mais par contre, on réduit les chances. Et c'est peut-être ça le problème qu'on a, c'est que quand il y a la grippe saisonnière qui arrive, toutes les personnes à risque, les personnels de santé, on est vacciné, on est protégé. Donc, toute cette population susceptible de rencontrer le plus de difficultés, malheureusement, d'avoir un pronostic vital qui sera mis en jeu, on est protégé. Donc, ça a moins d'importance. Quelque part, la grippe saisonnière crée beaucoup de victimes, mais on est un peu mieux préparé. De toute façon, ce vaccin, ce sera effectivement pour la prochaine saison. Et puis après, on verra comment ça se passera. Hein.
Alors, on va quand même rappeler que le Covid, naturellement, on s'en tire à 98%, mais il y a 2% de décès, malheureusement.
Exactement. Ce sont des chiffres qui, malheureusement, c'est nos personnes à risque. Et c'est pour ça qu'eux, il faut surtout les protéger. S'il y a un message à faire passer, c'est si vous avez autour de vous des personnes à risque, protégez-les. Si vous n'avez pas passé un test, si vous n'êtes pas sûr de vous, restez à distance. Voilà, il faut vraiment protéger nos anciens, les personnes qui souffrent de pathologies annexes. Et voilà, c'est vraiment là où il faut faire attention.
Qui nous permet d'avoir une pensée pour notre ami Vincent Duluc, hein, qui a connu une période difficile, mais qui viendra nous en parler d'ici quelques semaines. Voilà, allez, la pub. Et puis ensuite, on entame la deuxième partie de cet entretien. Cette fois-ci, on va naturellement davantage cibler sur l'actualité sport. Voilà, donc deuxième partie de cet entretien avec notre invité, hein, premier invité de cette matinée, Stéphane Kahn. Je voulais simplement vous dire que naturellement, cette émission, vous la retrouverez dans notre page Tribune Sport en podcast, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison, et y compris celles liées naturellement au confinement. Stéphane, comme tous les autres sports, hein, votre sport de prédilection, le sport automobile, eh bien, a été touché. Hein. C'est une saison pratiquement blanche, que ce soit pour les rallyes ou pour la Formule 1.
C'est une saison, malheureusement, pour la Formule 1, qui n'a même pas eu le temps de commencer. Il y a eu juste les essais d'avant-saison où Mercedes, a priori, avait mis au point une suspension qui lui aurait permis de remporter Grand Prix sur Grand Prix. Donc, je pense que ça a laissé du temps aux autres pour travailler de leur côté. Mais bon, ça reprendra peut-être avec le Grand Prix d'Autriche cet été. On parle de ce premier Grand Prix, ce serait l'objectif de reprendre à ce moment-là. Et puis, au niveau rallye, on parle pas maintenant du retour au rallye des Mille Lacs qui serait début août. Le Safari Rallye du Kenya qui devait revenir cette année au calendrier risque d'être annulé aussi à son tour pour des raisons sanitaires, là aussi, et puis de sécurité à tous les niveaux. Voilà, donc c'est même au niveau rallye, ça risque de repartir uniquement pour une deuxième demi-saison. La chance qu'on a dans les sports mécaniques, c'est par contre, c'est sur une saison calendaire, c'est pas comme les scolaires. Donc, ça permet quand même, notamment en rallye, et nous, on a eu la chance de faire le rallye Monte Carlo historique en début de saison. Donc, pour nous, c'est pas forcément une saison complètement blanche. C'était une belle aventure. Et encore une fois, c'était incroyable de la vivre et elle en a plus de valeur maintenant. Il va falloir voir comment tout ça, ça se met en place pour la fin de la saison.
Alors, ça veut dire que Stéphane, on peut éventuellement réaménager les calendriers, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que les rallyes, ça se termine au mois de novembre. Est-ce qu'on peut, par exemple, prolonger dans certains continents, c'est possible, hein, donc les compétitions jusqu'à fin décembre. Et puis, en Formule 1, bon, il y a des épreuves qui n'auront pas lieu, mais est-ce qu'on peut les reprogrammer un peu plus tard dans la saison, faire aussi finir, par exemple, la Formule 1 pratiquement pour Noël?
Ça, c'est possible de décaler. Il y a déjà certains grands prix où ils parlent plutôt de... Certains ont été annulés. Le Grand Prix de France, malheureusement, est annulé.
Oui.
D'autres grands prix vont être reportés. Maintenant, il faut savoir aussi que suivant les grands prix où ils se situent, il faut que le matériel puisse arriver. Il y a des délais aussi de transport. Il y a toute une organisation. Et puis, il y a les mécaniciens qui doivent suivre aussi. Voilà, ça peut être reporté, mais c'est pas si facile que ça non plus. Les rallyes, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y en a un petit peu moins. Et les rallyes qui finissent la saison sont des rallyes lointains. Et une fois que le matériel est parti, il reste sur place au loin. Donc, on peut envisager effectivement la fin de la saison, surtout que ce sera peut-être dans des pays où la pandémie sera moins importante. Les fédérations vivent un peu au jour le jour, voient un peu l'évolution de la pandémie et puis sont obligées aussi de suivre l'actualité comme nous.
Oui, parce que vous l'aviez dit, bon, août, c'est peut-être plus raisonnable que juillet. La Formule 1, vous l'avez dit, on parle d'une reprise de la compétition du début du championnat début juillet. Ça sera peut-être un peu juste. Est-ce qu'on peut faire du huis clos ou limiter le nombre de spectateurs autour d'un circuit de Formule 1?
Le problème, c'est que, et c'est pour ça qu'on parle surtout du Grand Prix d'Autriche, parce qu'en fait, c'est le Grand Prix Red Bull. Donc, Red Bull est prêt à mettre la main au portefeuille pour que le Grand Prix ait lieu même à huis clos. Mais une compétition de Formule 1, c'est surtout aussi l'entrée des spectateurs qui permet d'avoir des revenus, de payer une partie du plateau et de faire venir les équipes. Donc, quand il n'y a pas de spectateurs, c'est plus difficile de tenir les budgets. Donc, c'est pour ça que certains Grands Prix, malheureusement, sont sur la sellette. Les rallyes, il n'y a pas de spectateurs payants. Donc ça, c'est plus facile d'envisager quand même, notamment début août, ce serait le rallye des 1000 lacs en Finlande. La densité de population est faible, même s'il y a pas mal de spectateurs. Les peuples scandinaves sont très, très rigoureux au niveau de l'hygiène. Ils sont très respectueux de la nature, les uns envers les autres. Quand on va là-bas, on est vraiment bien accueillis, bien reçus. Moi, j'ai bon espoir que le rallye des 1000 lacs ait lieu. Après, qu'il n'y ait pas de personnes touchées par le Covid, que tout le monde puisse venir, que les transporteurs amènent le matériel. Enfin bon, il y a beaucoup de paramètres autres.
On peut barriériser avant les arrivées, avant les départs pour les rallyes. Et puis, est-ce que la Formule 1 à huis clos, bah, finalement, c'est excitant?
Bah, pourquoi pas, oui, parce que de toute façon, quand on voit les images d'un Grand Prix, bon, on voit de temps en temps des images des tribunes, mais c'est surtout sur la piste que ça se joue. Donc oui, pourquoi pas. Moi, le Grand Prix d'Autriche à huis clos, oui, c'est envisageable. Après, pour les autres Grands Prix, ce sera peut-être un petit peu plus dur.
Il n'y a pas de problème de droit télé si on ne transmet pas tous les Grands Prix, comme pour le foot, comme pour le rugby, par exemple?
Oh, alors ça, je sais pas les accords qui sont passés. TF1 d'habitude, depuis 2-3 ans, retransmet quelques grands prix. Est-ce que là, ils vont continuer ou pas? Est-ce qu'ils vont essayer justement de forcer pour gagner quelque part de marché? Je ne sais pas du tout quelles sont les clauses qu'il y avait dans les différents contrats. Bon, maintenant, tout ça, ce sont des sports professionnels qui génèrent des budgets, de l'argent, les sponsors. C'est compliqué, hein, de l'aspect financier et l'autre partie importante du problème.
Ouais. Ouais, il n'y a pas de chômage partiel dans le monde de la F1 ou...
Non, bah parce qu'en fait, je sais, chez Citroën Sport, la plupart des mécanos sont au chômage partiel, hein, un peu comme tout le monde. Par contre, ça n'empêche que les bureaux d'études, s'il y a des essais à mener, ça continue en télétravail, il n'y a pas de souci. Les pilotes s'entraînent, ils sont tous adeptes des jeux vidéo, des simulateurs. Donc, beaucoup font des compétitions sur simulateurs, il y a même des compétitions entre eux. Ouais. Pour les 24 heures du Mans, ils parlent de faire une compétition sur 24 heures réservée aux pilotes, justement. Donc, il faut voir ce que ça donne. Voilà, donc tout le monde s'entraîne un petit peu avec les moyens du moment. Ça avance, hein. Les gens ne restent pas inactifs. Bon, par contre, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas d'essais sur le terrain, il n'y a pas d'essais sur les circuits. Ça reste un peu entre parenthèses.
À quoi passe son temps donc pour un pilote de Formule 1 ou bien de rallye au niveau de l'entraînement? C'est un entraînement physique comme tout le monde. Il essaie un peu de s'entretenir physiquement, d'aller faire un peu de vélo s'il peut le faire dans son appartement.
Il faut
courir à 1 km de chez lui notamment.
Ouais, alors un peu, de toute façon, on fait tous un petit peu la même chose. Hein. C'est normalement beaucoup plus de vélo pour le cardio. Là, bon, maintenant ça se limite. Pour mon cas, moi, je respecte 1 km, la course à pied. En cette saison, je cours plus. Hein. C'est surtout l'hiver que on fait de la course à pied et puis du vélo à partir du printemps et puis le reste de l'année. Je pense que les pilotes de Formule 1 ont des salles de sport, j'imagine, chez eux, bien équipés. Ils ont des trainers. Bon, moi, j'ai eu la chance de mon cabinet, même si j'ai fermé mes salles de soins, j'avais ma salle de sport qui restait quand même accessible. Donc bon, j'en ai profité pour aller faire quelques sessions vélo quand même. Mais ça remplace pas le fait d'aller dehors, faire de longues distances avec du dénivelé comme on peut connaître dans notre belle région. Ça, voilà, c'est pas du tout la même chose. On s'entretient en prévision d'une reprise possible. Nous, au niveau français, au niveau national, les épreuves vont reprendre début août. On a le feu vert de la fédération. Par contre, comme il faut aussi 2-3 mois avant un événement, le temps d'avoir au niveau de la préfecture les accords, de mettre en place le parcours, prévenir de nouveau les municipalités, les communes du passage du rallye, fermer les routes. Voilà, si le déconfinement arrive, là, on va dire à partir de maintenant, les épreuves auront pas lieu au mieux avant 3 mois. Et si beaucoup d'épreuves sont reportées, il y aura des week-ends où il y aura trop d'épreuves, elles pourront pas avoir lieu. Le problème du calendrier qui va se poser, c'est qu'on n'aura pas tant de week-ends que ça à la fin de la saison pour caser toutes les épreuves.
Oui, c'est l'éternel problème, hein, puisque on va le voir à la rentrée, les 24 heures du Mans ont été donc repoussées au 19 et 20 septembre. Ça va tomber le même week-end que le Boulder Moto et 3 semaines après les 24 heures du Mans Moto. Alors, ça va être très chargé pour vous, Stéphane.
Et pendant le Tour de France cycliste, d'autres événements, il faut que les forces de l'ordre soient un petit peu à droite à gauche. Comment est-ce qu'on va faire si le Tour de France passe dans des endroits où il y avait des épreuves, mais pas que de sport mécanique, hein, d'autres épreuves qui avaient l'habitude d'avoir les forces de l'ordre ou de fermer des portions de route? Enfin, ça va être un casse-tête au niveau préfectoral, et il y aura sûrement des événements qui vont être privilégiés par rapport à d'autres. Là, il vaudra mieux avoir un peu de poids pour pouvoir maintenir son événement quand on le reporte.
Il ne faut surtout pas prendre de poids aussi, hein, parce que c'est important d'être bien dans l'habitacle.
Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à s'entretenir, à faire du sport. Donc, c'est footing régulièrement, abdos, stretching, et puis on s'entretient. Nous, de notre côté, bon, malheureusement, on avait eu un accident à la fin de la saison dernière, donc la voiture était en train d'être reconstruite. Là aussi, on perd un petit peu de temps parce que les délais sont rallongés. On devait là commencer à faire les essais, c'est repoussé. On espère courir au mois d'octobre, donc on laisse un petit peu de temps pour perdre les 2 kilos que j'ai en trop, et puis pour retrouver la forme et puis réattaquer une saison qui sera une demi-saison au niveau moderne, et puis les rallyes historiques, peut-être faire quelques rallyes pour se faire plaisir d'ici la fin de la saison. On verra.
Très bien, en tout cas, on vous aura pour les 24 heures du Mans et puis assez régulièrement.
Avec plaisir.
Hein, pour commenter là-dessus, ça veut dire que ça ira beaucoup mieux. Dernier petit mot, il y aura un avant, un après, fatalement.
Ah oui, forcément, les choses vont changer. Je vois toutes les personnes qui se sont mises à courir, il faut qu'elles continuent. Il faut continuer à faire du sport, il faut continuer à s'entretenir, bien sûr progressivement à son niveau, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une recrudescence de pathologie, de traumatologie du sport. Hein. Je pense que les déchirures, les entorses, les tendinites, comme tout le monde va reprendre à fond, on va être gâté. Donc il faut vraiment être progressif. Mais c'est bien, je pense que les gens ont pris conscience que la santé c'était important, qu'il fallait aussi se protéger les autres. S'il y a 2 choses qui doivent ressortir, c'est ça. Se protéger et protéger les autres.
Merci Stéphane pour votre témoignage et médical et sportif. Donc on marque une autre pause et puis on retrouve Olivier Bourdin pour la deuxième partie de cette émission du dimanche 10 mai.
Merci Philippe, au revoir.
Deuxième invité de cette matinée sportive du 10 mai, notre ami Olivier Bourdin, président de la section de l'US Poigny Rambouillet Cyclisme. Olivier, bonjour. On aurait en principe dû se voir sur le tour du Rambouillet Territoire ce dimanche.
Oui, bonjour à tous, bonjour Philippe. Oui, malheureusement, les conditions actuelles font que on se voit par téléphone.
Oui, donc épreuve annulée, comme toutes celles, naturellement, dans tous les sports, hein, et comme toutes celles concernant votre sport, le sport cycliste, je crois, jusqu'à fin juin, début juillet.
Jusqu'à fin juillet, nous, nous, on en est à 3 organisations de supprimer. La course d'Orphin, début, qui avait lieu au mois de mars. donc la Sud-Yvelines Rambouillet Territoire aujourd'hui, et les championnats d'Île-de-France des jeunes qui devaient avoir lieu fin juin à Bullion.
D'accord. Alors ça va se passer comment, Olivier ? Est-ce que ce sont des épreuves qu'on peut peut-être reprogrammer, si possible, en fin de saison, ou alors est-ce qu'il faudra peut-être l'année prochaine, ou carrément elles seront purement et simplement annulées ?
Reprogrammer en fin de saison, ça va être compliqué parce qu'il y a déjà des calendriers qui existent. Hein. Il y a des courses qui sont déjà prévues au calendrier à partir du mois de septembre. Parce que de toute façon, l'objectif, c'est d'organiser au mois de septembre-octobre. Le mois de septembre-octobre est bien chargé. En plus, c'est les grosses manifestations type Tour de France, Roland-Garros qui vont avoir lieu. Donc, ils vont nous prendre énormément de gens de secourisme. Il faut penser à ce côté-là aussi, c'est que pour avoir les autorisations préfectorales, il faut les secours, et puis ces grosses manifestations, ils vont absorber énormément de secours, et en plus avec la période qu'ils ont passée, donc on risque d'avoir un manque d'effectifs pour assurer nos courses. Nous, on avait une course qui était aussi prévue au mois de le 5 juillet, donc opérée, donc on va essayer de la faire au mois d'août, donc si on peut reprendre, vraiment les courses sont annulées jusqu'au 31 juillet, donc la possibilité de pouvoir le faire peut-être au mois d'août. Donc, on va essayer de la faire le 2 août, puisque là, par contre, au mois d'août, il y a un calendrier qui est vraiment light, puisque d'habitude, c'est des vacances. Donc, on va essayer de trouver ce créneau, mais ça va être compliqué de pouvoir reprogrammer d'autres courses.
Ouais, donc ça veut dire que pratiquement, c'est une saison qui aura duré 2 mois, quoi, Olivier.
Qui aura duré très, très peu, parce qu'on n'a eu même pas 15 jours de course. Hein, les gars, la troisième course, ils ont été annulés au bout de la troisième course, hein, pratiquement, puisque les courses ont commencé début mars, et à partir du 20 mars, tout était annulé. Donc, ils ont eu le temps de faire plus de courses, hein, ou 3 pour certains qui ont été courir en mois de février, un peu dans leur année. Donc c'est une course, une saison qui va être très courte, qui va reprendre début septembre. Alors peut-être avec j'ai cours jusqu'à mi-octobre, et après on va enchaîner sur les cyclocross et voilà.
Ouais, après c'est difficile hein, aussi d'organiser des courses sur route au mois de novembre. Hein. Les conditions météo sont pas garanties. Puis comme vous l'avez dit, il y a tellement d'autorisations à avoir donc auparavant que c'est difficile de les obtenir comme ça au dernier moment.
Voilà, déjà il faut reprendre contact avec les différentes mairies, parce que les salles, savoir si les salles sont disponibles, si lors des week-ends ils n'ont pas d'autres manifestations eux, puisque bon, on n'est pas les seuls. Et puis, pour réorganiser tout ça, puis il faut pas prendre non plus des créneaux de certaines organisations qui étaient déjà inscrites au calendrier. Donc, ça va être assez compliqué. Quand on est des grosses organisations, on peut se permettre, mais quand on est à notre niveau, on se tient la main, on est solidaire, donc on essaye que ça se déroule bien. Donc, je vous dis, nous, on va essayer d'en refaire une au mois d'août, celle du Perret. Et après, on a un concept là que la FFC est en train de développer sur des contrôles à montre. Parce que c'est un peu pour le sport, pour un peu se réorganiser, se réinventer, comme ils disent à la FFC. On va essayer de faire un contre-la-montre le 11 octobre. On est en train d'essayer de monter le projet du côté d'Orsin pour voir si on peut faire quelque chose comme ça.
Ouais, comment les cyclistes vivent cette pandémie ? Ils vont pouvoir reprendre très rapidement l'entraînement, mais alors tout en respectant les différentes la distanciation donc sociale.
Hein. C'est compliqué, hein, c'est très dur. Oui, d'ailleurs, il y en a.
En vélo,
c'est puis en vélo sport collectif. Mais là, bon, déjà depuis maintenant 6 semaines qu'ils sont confinés, bon, l'entraîneur a été un gros élément de travail, puis de se défouler, hein, parce qu'ils sont ils sont sur le charbon ardent, ils sont confinés, donc très très dur. Il y en a qui vont faire, qui quand même, ils vont dans l'interdit, qui vont faire quand même quelques sorties VTT, quelques sorties vélo, bon, avec des risques, hein, dans la forêt, dans les campagnes, il n'y a pas trop de contrôle, il y en a qui l'ont fait. Mais c'est vrai que leur reprise le 11 mai, donc là, la Fédération française de cyclisme et le sport, le comité olympique, a donné des prérogatives hein, de faire du vélo le 11 mai, donc c'est du vélo tout seul.
Ouais, tout seul, s'entraîner tout seul en solitaire, hein.
Voilà, avec maximum, minimum 10 à 15 mètres entre chaque coureur au moment de se dépasser, faut faire plus rapidement et faire attention. Mais surtout faire du vélo tout seul, jusqu'à au mois de juin, déjà. Et sachant qu'aussi que, toutes les forêts et les parcs sont comme nous, en 78, on sera en zone rouge. Donc, toutes les forêts et les parcs seront aussi interdits. Donc, ça va être compliqué pour ceux qui voulaient faire du VTT.
Donc, Olivier, comment vous et les cyclistes vivent ce confinement ? Je suppose que naturellement, ça a été très difficile pour beaucoup, pour certains même.
Très très dur, hein, parce que nous, on est ceux qui font du vélo, ce sont des gens qui aiment être dehors, en plein air, faire des efforts. Être confiné, c'est pas notre principe, hein, c'est très compliqué pour le sportif. Très compliqué pour du côté association, puisqu'on a du mal à les voir. C'est les associations, je cache pas que c'est difficile. On essaie de continuer parce que voir l'avenir, c'est assez compliqué. Il y a aussi le côté associatif, il y a le côté aussi financier, hein, faut pas l'oublier. Nos partenaires, voilà, il faut aussi renouveler avec eux parce que c'est eux aussi, ils vivent des moments difficiles. Donc les sponsors privés, c'est compliqué, il faut discuter. Les subventions, qu'en plus on est en année élective, donc les mairies, tout ça, rien n'est fait niveau conseil municipal, donc tout ce qui est subvention, rien n'est voté, et ça sera certainement pas voté avant le mois d'août ou voire septembre. Donc il y a beaucoup d'associations, ça va être très compliqué de ce côté-là aussi. Hein. Il faut toujours une partie de finances aussi pour gérer une association.
Oui, voilà. Ça va être un des problèmes, Olivier. On sait qu'il va y avoir naturellement une crise économique qui va arriver après cette crise sanitaire et psychologique. Donc, il va y avoir naturellement des budgets à revoir, des efforts à faire. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait certains sponsors qui vous lâchent ?
Ah bah, c'est une crainte, hein. C'est une crainte. Et puis d'un côté, je dirais, malheureusement, on le comprend. Aussi, si on a des difficultés, je dirais, dans leur entreprise, ils ont des salariés, ils ont un travail qui, eux, ils savent déjà pas leur avenir pour leur propre entreprise. Et je dirais, malheureusement, chaque entreprise, quand on demande à faire une réduction, on dirait, on élimine les lignes de coûts qui sont pas nécessaires et qui sont les premières à abordables. Donc, le sponsoring, c'est l'une des premières. Après, donc, je dirais, on a un lien avec nos partenaires qui est depuis plusieurs années. Donc, après, c'est à nous de travailler avec eux, de discuter. Voilà, c'est différentes choses. C'est des contrats qui étaient liés. On a des engagements qui ont été pris. Nous avons fait des investissements puisque c'était une année aussi qu'il fallait qu'on fasse des équipements. Donc, on a quasiment tout l'argent qui est rentré. On l'avait déjà réinvesti dans les équipements. Qui était prévu d'arriver parce qu'on a des argent qui n'est pas arrivé encore sur les comptes. Donc, qui arrivera peut-être pas. Et oui, c'est vrai, c'est très compliqué. C'est niveau, il y a le côté humain sportif, mais il y a le côté aussi gestion d'une association qui est compliqué en ce moment de le faire. Et en plus, en étant confiné, c'est encore plus compliqué de se voir avec les partenaires.
Donc, ça veut dire que certaines épreuves, notamment le Tour Rambouillet territoire, peuvent être impactées, peuvent voir même certaines épreuves carrément disparaître l'année prochaine du calendrier cycliste.
Bah oui, il peut y en avoir. Bon, après du calendrier cycliste, je ne sais pas pour le moment puisqu'on n'a pas encore travaillé, mais déjà, bon, il y a un côté financier, mais côté aussi l'après Covid-19 qui va aussi être impacté parce que je soupçonne que nous, niveau organisation, on va être impacté niveau choses en plus, niveau prérogatives, donc ça va être encore plus compliqué d'organiser. Faut pas se leurrer, hein, on va pas sortir tout blanc. Et puis plus ça va, plus les années, c'est compliqué niveau organisation, niveau dossier d'organisation. Donc voilà, plus les ans, c'est compliqué. Plus on a un virus en plus qui va nous compliquer la vie, plus la vie des associations qui va être impactée. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines organisations qui vont subir les conséquences. Hein. Puis aussi le côté, je dirais, moral des dirigeants qui vont prendre un coup aussi. Hein, de se relancer, c'est pas évident que tout le monde puisse se relancer niveau moral.
Donc vous êtes d'accord si on vous dit qu'il y aura aussi un avant et puis un après, ça pourra plus être pareil même sur le plan associatif, même sur le plan amateur.
Ah bah tout à fait, ça sera plus la même chose. De toute façon, même nous dans la vie de tous les jours, je pense qu'on va en prendre une leçon, on va vivre différemment. Donc dans le monde sportif, ça sera différent. Dans le monde associatif, ça sera différent. Il y a des choses qui vont être mises en place. Hein, ça sera inévitable. Qui va réorganiser notre façon, notre vie associative, notre façon de travailler en groupe, le sport collectif va être revu différemment. Voilà, c'est il y aura un après qui sera pas forcément facile à gérer.
Oui, Olivier. Bon, il y a aussi le monde du cyclisme professionnel. Hein, tout le monde espère que le Tour de France pourra avoir lieu. On a décalé le Tour au mois de septembre. C'était un moindre mal.
C'est un moindre mal parce que le Tour de France déjà c'est un chiffre d'affaires énorme, hein, faut pas se cacher, il y a un côté financier, c'est un côté financier d'un côté, puis c'est aussi un impact par rapport aux communes, par rapport au tourisme, hein. Il y a des choses qui ont été mises en place, des communes qui ont investi sur certains événements de niveau matériel, comme nous on l'avait rembouillé, hein. Nous imaginez mal de le Tour de France se déplacer, c'est une conséquence énorme, hein. C'est des calendriers qui sont faits en avance, prévisions bien qu'ils sont faits un an et demi à l'avance, les étapes. On ne pouvait pas dire qu'on fait la même chose l'année d'après, parce que c'était déjà prévu l'année d'après, des étapes étaient déjà prévues. Donc oui, c'était un moindre mal. Après, on n'y est pas encore, hein, comme ça évolue toutes les semaines, tous les jours quasiment. Les coureurs ont le temps de courir un peu avant le Tour de France. Dans quelles conditions on ne sait pas encore, parce que bon, on parle même de manifestations jusqu'au 31 août. Le Tour de France est prévu le 28 ou 29 août, je ne sais plus les dates exactes.
Il est prévu des aménagements. Hein. Si on gardait ces dates, la ville de Nice a dit qu'elle était prête à faire certains aménagements. Voilà.
Que la première étape soit un contre-la-montre, puisqu'on pourra faire certainement des contre-la-montres à partir du 1er août. Voilà, il y aura des aménagements. Le début sera pas aussi magnifique que vous l'avez prévu, parce que c'était un beau Tour de France au départ de Nice. Hein, c'était magnifique. Ça sera pas la même chose, mais bon, ça sera moins normal de le faire. Et c'est surtout l'esprit compétition. Est-ce que les coureurs auront le temps de courir un peu avant le Tour de France? Parce qu'attaquer une saison directement sur un Tour de France de 3 semaines, c'est pas du tout les mêmes conditions. Hein, ça sera compliqué.
Alors justement, Olivier, au moment où on parle, c'est un peu comme la semaine dernière, hein, quand on avait fait Tribune Foot, on était en train de revoir le calendrier de foot. Hein, on sait que depuis le championnat de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que le top 14 pour le rugby, ne repartiront pas. Là, actuellement où on parle, l'UCI est en train de revoir un nouveau calendrier. Donc on pourrait avoir des courses préparatoires au Tour de France. Et puis peut-être mettre la saison un tout petit peu plus loin, fin octobre, début novembre, avec le report notamment des Tours d'Italie et des Tours d'Espagne.
Oui, puis des grandes classiques, hein. Et déjà le calendrier, Paris-Roubaix le 1er novembre, le Tour des Flandres une semaine après, donc des courses pratiquement le 20 novembre, hein, des classiques pratiquement jusqu'au 20 novembre.
Mais on peut le faire, on peut courir jusqu'au 20 novembre. Il fait nuit tôt, donc c'est pas évident, quoi.
Oui, mais enfin, quand on fait des courses au mois de mars, au mois d'avril, hein, les professionnels, ils ont l'habitude aussi, hein, gérer dans des conditions au mois de mars, avril, des fois qui sont pas. J'ai des exemples, hein, des Milan San Remo sous 3 degrés avec de la neige, qu'ils ont été obligés de couper pendant 10 km, des Tours de Lombardie, des Liège-Bastogne-Liège mythique avec Bernard Hinault, des Tours d'Italie, même des détails du Tour d'Italie qu'on a été obligé d'enlever des cols parce que là où il y avait trop de neige. Non, au mois de novembre, c'est faisable encore. Il y a pas, j'irais, ce sont des épreuves de début d'année qui seront en fin d'année, qui sont à peu près dans les mêmes conditions de météo. Donc, puis des fois, on a des mois de novembre magnifiques, hein, avec le temps qui change seulement maintenant. On peut peut-être avoir un mois de novembre, fin octobre et novembre, bon. Donc, courir jusqu'au 15 novembre, moi, ça me paraît pas impossible, mais c'est très faisable, hein, très, très faisable. Maintenant, après, c'est pour une organisation. Pareil.
Effectivement, parce qu'on a quand même du mal à imaginer des coureurs prendre le départ du Tour qu'avec seulement des séances d'entraînement. Il faut quand même de la compétition pour faire un Tour de France.
Ah bah oui, parce que c'est encore une compétition, mais là c'est une compétition de 3 semaines. Absolument. C'est quand même, c'est une préparation, et la plus relevée. En attaque en plus des 3 semaines, une attaque de Nice, on attaque sur des étapes de col. Voilà, c'est. On peut faire des Paris-Nice, c'est pour ça que des Paris-Nice, c'est une semaine. Hein, c'est des petits tours de début d'année, ce sont des tours d'une semaine. Hein, mais non, tout ça, tout ces trucs, Tirreno Adriatico, c'est une semaine. Les tours de début d'année, c'est une semaine, parce qu'on sait très bien que 3 semaines, c'est compliqué. Hein, c'est, voilà. Donc c'est pour ça, avoir course au mois d'août, c'est seul, moi, je vois l'optique qu'il y aura de ce côté-là. Parce qu'à le Tour de France, comme ça, c'est compliqué.
Oui, alors Olivier, naturellement, s'il y a le Tour de France fin août, ça voudra dire que la pandémie sera derrière nous et il y aura beaucoup d'enthousiasme à suivre ce qui sera quand même le premier gros événement sportif depuis 6 mois.
Ah bah oui, ce sera un retour de la joie des gens sur le bord de la route. Ce sera l'événement, ça sera suivi, même si au mois de septembre, on ne sait pas du tout le calendrier, parce que même le calendrier géré social de tous les jours sera peut-être changé. Hein, les écoles reprendront peut-être un peu plus tard. Parce qu'il y aura au mois de septembre sur les routes, il y aura peut-être moins de monde sur les routes parce qu'il y a les écoles, il y a tout ça, il y a moins de vacances. Mais bon, ça sera changé, mais avec le sourire, il y aura peut-être des aménagements de ce côté-là pour avoir autant de monde sur le bord des routes.
Très bien, on marque une pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cet entretien, Olivier. Allez, on retrouve Olivier Bourdin pour la dernière partie de cette deuxième interview et de cette émission du 10 mai. Olivier, sincèrement, cette pandémie, comme beaucoup, vous l'aviez vu venir?
Comme pas mal de gens, on l'a vu venir, on a été, ouais, je dirais, ce qu'on peut dire des mensonges, on l'a vu des soupçons, des choses. Maintenant, après, on peut en discuter pendant 107 ans, de la façon que ça a été pris en compte, la façon que la communication a été faite, les médias de ce côté-là, c'est compliqué, voilà. Le voir venir, je pense pas des choses comme ça, on peut pas les voir venir, sinon c'est beaucoup mieux pour préparer.
Ouais, parce mais que bon. C'est vrai qu'au départ, on s'est dit, allez, ça va rester au niveau de la Chine, ça va peut-être pas prendre la dimension mondiale que ça a pris. Puis c'est vrai que brutalement, au mois de mars, tout s'est arrêté. Le choc a été dur et puis violent quand même. Hein.
Bah, mais là, et puis c'est un choc mondial. C'est ça qui est plus inquiétant, c'est que ça soit mondial et qu'on soit pas au courant. Donc c'est pour ça que des fois, on a les soupçons de cachotterie, de mensonges. Quelque chose qui est mondial comme ça peut pas arriver d'un seul coup. C'est quand on voit que la Chine a réussi à faire passer certaines informations, qui est vraiment un pays vraiment cloisonné, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très très grave qui s'était passé. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été informé vraiment à 100% de l'effet que ça allait avoir. Et puis maintenant, on subit les conséquences. Et puis,
Oui, avec de grosses répercussions économiques, fatalement. Hein, une récession est annoncée, on en parlait tout à l'heure pour le domaine du sport. Ça va être également aussi ça dans notre quotidien, hein, certaines entreprises déjà qui ont du chômage partiel.
Bah oui, du chômage partiel. Et puis, malheureusement, on fera un point à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Je pense qu'il y aura vraiment de grosses entités, de petites entités, sur le carreau. Donc là, ça va être très compliqué de repartir. On va faire un point, mais ça, pour moi, ça sera pas très beau. Et on va mettre un moment sans remettre niveau économie et niveau social.
Mais oui, mais ça peut être aussi Olivier obligé à revoir les choses différemment, peut-être à trouver eux-mêmes, soi-même des solutions et puis finalement de repartir un peu différemment.
Oui, tout à fait. Pas la même chose avant et après, niveau organisation, niveau compétition sportive, que ce soit dans un gymnase ou à l'extérieur. Donc ça va évoluer. Et puis nous aussi, dans la vie de tous les jours, on va évoluer. Je pense que ça va évoluer. Se remettre en question sur certaines choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se remettre en question. Je dirais, c'est pas à notre niveau, même très très haut. Mais est-ce qu'ils vont vraiment se remettre en question? Parce qu'ils prennent des leçons, mais derrière, comme ils continuent sur leur système. Voilà. J'ai un doute de ce côté-là qu'ils prennent vraiment des leçons pour l'avenir.
Ah bon? Vous pensez que finalement, les mauvais démons vont ressurgir?
Bah oui, parce que les mauvais démons, en fin de compte, ils sont vraiment impulsés par des finances et puis des mauvais esprits, et puis ils vont revenir très très vite. Hein. Déjà, on le voit déjà actuellement, on sent déjà revenir, on sent déjà qu'il y a des privilèges au niveau finance qui sont faits par rapport à d'autres. Et je pense que ça va repartir. On a que des belles paroles et que ça va repartir sur des mauvaises. Il y aura des choses qui seront bien faites, mais il y a toujours des choses qui vont rester en place, qui vont repartir de tutelle. Ça sera peut-être pas en Chine, ça sera en Inde, ça sera ailleurs, mais voilà, on aura toujours cette là. On le voit même, on a des produits en France qu'on a du mal à vendre et qui sont très chers, parce qu'il y a quand même un problème. On a les seuls produits en France et on a du mal à les vendre et les acheter parce qu'ils sont trop chers. Donc il y a vraiment quelque chose de problématique quelque part dans notre organisation. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça date certainement daté depuis 30 ans qu'on met en place quelque chose comme ça.
Et puis on en parlait avec notre premier invité, Stéphane Caen, hein, qui lui est dans le corps médical, le citoyen que vous êtes. Est-ce qu'il n'est pas un peu aussi surpris par les dissensions qu'il y a dans le corps médical? On n'est pas d'accord sur comment affronter et joindre la pandémie. Je sais bien que la science n'est pas une science exacte, comme on dit. Mais ça aussi, ça fait émettre quelques doutes.
Bah, je dirais, ça regroupe un peu la désorganisation qu'on a depuis 30, 40 ans qu'on a mis en place, hein, notre état de technocratie énarque qu'on a mis en place, on fait ça de loin, mais sur le terrain, il n'y a pas du tout de concret et qu'on fait que des trucs, gérés sur du papier et de loin. Et on arrive du mal, dans certains bureaux, on se parle pas et on le voit concrètement là. On voit les polémiques actuellement pour acheter des masques, l'État a 20 jours, 30 jours pour acheter des masques. Et les sociétés privées, en 3-4 jours, ils arrivent à en avoir autant que l'État. C'est qu'il y a quelque chose vraiment qui ne fonctionne pas dans notre système administratif de gestion. Il y a un gros problème là. Et ça déroule sur tous les systèmes, le système médical qui ne se parle pas, par rapport à d'autres, par rapport à d'autres ministères.
Et puis, Olivier, heureusement, on l'a dit aussi, hein, au cours de nos émissions spéciales confinement, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a cette crise sanitaire, cette crise économique, mais aussi cette crise psychologique. Hein. Heureusement que les réseaux sociaux sont là.
Ah oui, les réseaux, les WhatsApp, les visios pour les familles, hein, qui ne sont pas vus depuis 8 semaines, je peux vous dire que ça fait du bien de voir, même si c'est qu'à l'écran de l'ordinateur, de voir un peu de visage, ça fait du bien aux gens. Heureusement.
Voilà. Alors pour vous, ça va être le but, ça va être de fidéliser aussi vos pratiquants. Il y aura quand même une rentrée, il y aura un forum des associations. C'est là qu'il faut venir s'inscrire pour faire du vélo. Mais le problème, ça va être de garder ces pratiquants et de fidéliser ces nouveaux pratiquants.
Oui, ça va être un problème. Et puis bon, nous, je dirais, ça va être un gros, gros week-end, puisque ce week-end du forum des associations, le 5 septembre, le lendemain, on aura quand même qui devait être la finale de la Coupe de France féminine nationale pro, puisque les 5 autres épreuves avant n'ont pas pu se dérouler. Donc, ça sera une étape et puis on aura 2 étapes après. Donc, le 6 septembre, une étape de la finale, une étape de la Coupe de France féminine nationale 1, nationale 2 et professionnelle. Donc, au départ de Rambouillet, pour un circuit sur la Selle Les Bords et Clairefontaine. Donc, ça va être un gros, gros week-end.
Donc ça, on peut penser que ça sera la grosse rentrée de votre section cycliste après cette pandémie, quoi.
Ah, tout à fait, oui, c'est la grosse organisation, on y travaille dessus. Bon, c'est pas facile puisque comme les contacts sont assez compliqués actuellement, mais pour faire des réunions, parce que c'est comme une grosse épreuve, hein. On va tout travailler pour que la rentrée se fasse bien.
Très bien. Bah, Olivier, merci en tout cas. Bravo pour votre courage, hein, comme tous ces bénévoles qui œuvrent pendant cette période de pandémie. Puis, écoutez, à très bientôt, hein. Vous aviez été notre dernier invité donc en studio avant d'entrer dans la période confinement. Donc, on se reverra très bientôt. Merci Olivier en tout cas. Merci.
Au revoir.
Merci. Voilà donc pour cette émission du dimanche 10 mai. Merci en tout cas à Olivier Bourdin et à Stéphane Camp. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à toutes et à tous.